est 14h sur Europe 1. Cédric Chasseur pour les infos.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le jeudi noir dans le transport aérien aura bel et bien lieu malgré un accord de sortie de crise avec le syndicat majoritaire. 75% des vols restent annulés à Orly, 55% à Roissy. Forte perturbation également en province avec 65% des vols supprimés à Marseille, 45% ailleurs. Le ministre des Transports, Patrice Vergriette, salue tout de même un accord gagnant-gagnant. Dans 30 minutes, le début des obsèques de Philippe Kopmann à Grande-Synthe. Le jeune homme de 22 ans avait été battu à mort dans un guet-apens il y a une semaine de cela. Près de 1500 personnes sont attendues selon la mairie qui prévoit une mobilisation aussi forte que lors de la marche blanche. Visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité, Fabrice Leggeri contre-attaque. L'ancien patron de Frontex est accusé d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants dans le cadre de ses fonctions. Ce matin sur Europe 1 et CNews, le numéro 3 de la liste RN aux élections européennes s'en prend directement à la Ligue des droits de l'homme et à l'association d'aide aux migrants Utopia 56 à l'origine de la procédure.
Je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reproche une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que, comme directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou, en tout cas, les trafics d'êtres humains qui envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort. Et il y a des ONG qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants ONG à la mort.
Fabrice Leggeri, candidat RN aux européennes, invité de l'heure des pros ce matin sur Europe 1 entre 9h et 9h30. Le foot, 3 matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi. Lorient-Paris-Saint-Germain à 19h, Monaco-Lille et Marseille-Nice à 21h. En cas de succès parisien combiné à un nul ou à une défaite des Monégasques, le club de la capitale validerait son 12e titre de champion de France. 14h02 sur Europe 1, vous retrouvez Christophe Ondelatte pour Ondelatte raconte.
Europe 1, 14h-15h, Ondelatte raconte.
Bonjour à tous, je vous ai raconté hier deux histoires de médecins légistes et je vais vous en raconter deux autres aujourd'hui, toujours tirées des livres du médecin légiste belge Philippe Boxo, qui est là avec moi et que je salue. Bonjour docteur Boxo.
Bonjour Christophe.
Et bien entendu, ces deux histoires, on les débriefera ensemble tout à l'heure. La première histoire du jour est tirée de votre livre « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tue son père et qui finalement ne le tue pas. Histoire écrite avec l'aide de Tuc Duhat de Dieu le veut, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Les homosexuels, des dégénérés qui accomplissent des actes contre nature. La preuve que c'est pas naturel, c'est qu'il n'y en a pas chez les animaux. Hein. Faut les soigner, ces malades, ces pervers. Je vous présente Philippe, homophobe jusqu'au bout des ongles. Philippe est le papa d'une jolie jeune fille de 20 ans qui se prénomme Marie. Il est séparé de sa femme. Marie habite une semaine chez sa mère et une semaine chez lui. Et Marie, eh bien, il ne l'a jamais vue avec un garçon. On dirait qu'elle fait tout pour les éloigner et les décourager. Et pour cause, elle préfère les filles. Et ça se confirme quand elle tombe amoureuse d'Amélie. Papa ! Papa, viens. Ça va ? Je te présente une amie. Elle s'appelle Amélie. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je m'inquiète toujours quand ma fille me ramène une fille à la maison. D'autant qu'elle me ramène jamais de garçon. Mais toi, toi on voit bien que t'es pas une gouine, hein? Tant mieux. Sauf qu'avec le temps, elles ne se quittent plus. Elles sont vraiment amoureuses. Et ça se voit. Et Philippe finit par s'en rendre compte. Ça ne lui plaît pas du tout. Et un jour, une violente dispute éclate. Et Philippe frappe sa fille et Amélie. Marie se dit, il est en train de ruiner ma vie. Et elle décide d'en finir avec lui. Une nuit, sans rien dire à Amélie, elle pénètre dans la maison de son père. Elle coupe l'alarme. Elle va dans le salon. Elle sait que son père a une arme dans un tiroir. Elle la prend elle la chambre. Elle entre à pas feutré dans la chambre de son père. Et elle vide le chargeur en direction de son père. 13 coups de feu. Ensuite, elle dépose l'arme vide sur le lit. Et elle s'enfuit. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil du substitut du procureur.
Dites, docteur, j'ai un monsieur qui a été tué par arme à feu. C'est sa femme de ménage qui l'a découvert en arrivant ce matin. Vous pourriez vous rendre sur place, s'il vous plaît ?
Depuis 30 ans que je suis médecin légiste, quand j'arrive sur une scène de crime, je procède toujours de la même manière. Je pose mon sac dans l'entrée, à côté de ceux du labo, autrement dit, en milieu sécur. Je mets mes mains dans mes poches pour éviter de déposer mes empreintes digitales et je fais le tour des lieux. Je cherche des éléments qui m'instruiraient sur l'état de santé du défunt. Un mot qu'il aurait laissé, des traces diverses comme des traces de sang, etc., etc. J'examine la pièce. Et puis je prends la température de la pièce. Et je note si le chauffage fonctionne, si une fenêtre est ouverte. Bref, je constate les conditions thermiques dans lesquelles le corps se trouve. Ce sera fondamental au moment d'estimer l'heure du décès. Et ensuite, et seulement ensuite, je me rapproche du corps. Je l'examine tel qu'il se présente, sans toucher à rien. Et je note tout. Position du corps, est-il couvert, jusqu'à quelle hauteur, quel type de couverture, drap ou édredon, de quelle qualité, combien de couches, y a-t-il des traces d'écoulement sur les draps ? Le corps de Philippe est en décubitus latéral gauche. Autrement dit, en chien de fusil, en position fœtale. C'est comme ça que la plupart des gens dorment. Son visage est tourné du côté de la porte d'entrée de la chambre. Il est couvert jusqu'au cou par un drap et une seule couverture peu épaisse. Je retire la couverture et le drap. Il est habillé d'un pyjama en tissu synthétique.
14h, 15h,
Ondelat raconte sur Europe 1.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Les Effacés, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. En Galice, un tueur kidnappe des femmes qui partent tôt au travail. À Madrid, un assassin s'en prend à des milliardaires. Deux tueurs, deux mondes. Et pour Lucia Guerrero, de la Guardia Civil, une situation explosive. Les Effacés de Bernard Minier, un livre XO, numéro 1 des ventes.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Merci de nous rejoindre. Excellent après-midi sur Europe 1 avec Christophe Ondelatte qui vous accompagne de 14h à 15h. C'est temps de la traconte, émission spéciale depuis hier puisque Christophe Ondelatte vous raconte des histoires de légistes tirées du livre du docteur Philippe Boxo, médecin légiste en Belgique et auteur du livre Les morts ont la parole, paru aux éditions Kens. Philippe Boxo que nous retrouverons avant 15h aux côtés de Christophe Ondelatte. Mais pour le moment, voici la suite du récit.
Europe 1, 14h, 15h. Ondelatte raconte.
Je vous raconte une histoire tirée du livre du médecin légiste belge Philippe Boxo, Les morts ont la parole, aux éditions Kens. Livre dans lequel le légiste raconte quelques-unes des affaires qu'il a eu à traiter. Dans cette histoire, Marie, une jeune lesbienne, vient de tuer son père, homophobe, à coups de pistolet. Là-dessus, la juge d'instruction arrive.
Alors, docteur, t'en penses quoi ?
Ce que j'en pense ? Bah, qu'il est mort. C'est tout ce que je peux te dire. Je l'ai pas encore examiné. Mais bon, je vois des impacts de projectiles qui me font penser qu'on a utilisé une arme à feu. Là-dessus, pour déterminer l'heure du décès, je prends la température du corps. Bon, ça n'est qu'une première approximation, mais je dirais que le décès a eu lieu vers 23h. J'affinerai quand j'aurai le poids du corps, on le pèsera en salle d'autopsie. 23h donc, vous dites, docteur. Oui, c'est ça. C'est alors, ça colle pas du tout avec le programme de l'alarme, qui montre qu'elle a été coupée à 2h30 du matin. C'est très étrange. Quand elle est arrivée, la femme de ménage a trouvé l'alarme coupée. Ça l'a étonnée parce que la nuit, Philippe mettait toujours l'alarme. D'après elle, il n'y a que 3 personnes qui connaissaient le code. Philippe, elle-même, et Marie, sa fille. Une autopsie se déroule toujours de manière complète et systématique. Tout le corps de Philippe sera autopsié, même si on voit bien qu'une balle a traversé le crâne. Certains aimeraient, au nom d'un prétendu respect du corps, que je m'en tienne au crâne. Non, le droit pénal exige un niveau de certitude très élevé. Alors, premier constat. Marie a bien appris de son père. Toutes les balles ont touché le corps, certaines l'ont même traversé. Même à courte distance, sacré performant. Et dès l'examen des entrées et des sorties des balles dans le dos, je vois qu'il y a un problème. Toutes ont un aspect post-mortem. Pour dire les choses clairement, elles semblent dater d'après la mort de la personne. Parce qu'il y a très peu de sang qui a coulé de ses plaies. Je vous explique. Après la mort, il n'y a plus de sang, ni dans les artères, ni dans les capillaires. Il n'y en a plus que dans les veines. Pour être clair, si on découpe la peau d'un mort, le sang ne coule pas, parce que les capillaires sont vides. Et là, soyons clairs, il n'y a pas assez de sang autour des plaies de Philippe pour croire qu'il a été tué par balle. S'il vous plaît, vous m'aidez à le retourner ? Quand j'ouvre la cage thoracique, je découvre qu'une balle a traversé le cœur de part en part. Mais là encore, peu de sang s'est écoulé. J'espère qu'en ouvrant la boîte crânienne, j'aurai la réponse à ce mystère. Je commence par retirer l'os crânien à la scie à plâtre. J'ouvre la turmère, cette enveloppe qui entoure le cerveau, et c'est là que je découvre une hémorragie sous-dural de très grande ampleur. Elle a été provoquée par une rupture d'anévrisme de ce qu'on appelle le polygone de Willis. Le polygone de Willis, c'est le carrefour où se retrouvent tous les vaisseaux qui irriguent le cerveau. C'est là que se répartit le sang vers les différentes zones. La rupture d'anévrisme a entraîné une hémorragie. L'hémorragie a créé une hyperpression sur le cerveau. Et comme la boîte crânienne n'est pas extensible, le cerveau s'est engagé dans ce qu'on appelle le trou occipital. Mettez votre main à l'arrière du cou. C'est bon ? Vous sentez le trou entre le bas du crâne et la première vertèbre ? C'est ça, le trou occipital. Le cerveau en hyperpression à cause de l'hémorragie cérébrale est venu se comprimer sur le pourtour de ce trou. Des zones du cerveau ont été écrasées, le sang ne pouvait plus passer, les neurones sont mortes, la respiration et le cœur se sont arrêtés. Et Philippe est mort. Vu la position dans laquelle on l'a retrouvé dans son lit, eh bien ça s'est passé pendant qu'il dormait. Il n'a pas senti ce qui lui arrivait. Et ça explique l'écart horaire entre le moment du décès, que j'ai évalué vers 23h, et l'arrêt de l'alarme vers 2h30. Quand Marie a tiré sur son père, il était déjà mort depuis plus de 3h. Et s'il était mort, eh ben elle ne l'a pas tué. Ça n'est pas un meurtre. On ne peut pas la poursuivre pour ça. Elle a eu beaucoup de chance. Espérons qu'elle saura en profiter. À suivre, une deuxième histoire du docteur Boxo, dans laquelle la victime s'appelle aussi Philippe.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What ?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7 000€ à tous.
3 000€ de remise en plus ?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79€ par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650€, bonus éco 4 000€, remise éco Fiat 3 000€ et prime à la conversion de 1 500€ déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes ? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40€ le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Vous écoutez Europe 1, restez bien avec nous. La suite d'Andelat raconte, émission spéciale Histoire de Légiste. C'est juste après un peu de musique. Je vous propose cet après-midi d'écouter ce titre iconique de la chanteuse Dusty Springfield, sorti en 1969. Dusty Springfield, voici Son of a Preacher Man sur Europe 1. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Yeah.
come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Janvier 1969 sortait l'album Dusty in Memphis de Dusty Springfield et dedans ce titre que nous venons d'écouter, c'était Son of a Preacher Man sur Europe 1. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 et merci à vous chers auditeurs d'Europe 1 puisque comme vous le savez, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés jeudi dernier par Médiamétrie et la famille Europe 1 s'agrandit encore. Nous sommes fiers et heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. C'est d'ailleurs la meilleure progression des radios généralistes et au total, vous êtes donc désormais 2 387 000 à écouter Europe 1. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et votre confiance. Et restez bien à l'écoute puisque de 14h à 15h chaque après-midi du lundi au dimanche, vous écoutez On de la Traconte. Et la suite, c'est maintenant sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, On de la Traconte.
Je vous raconte aujourd'hui deux histoires tirées du livre du médecin légiste belge Philippe Boxeau, Les morts ont la parole, aux éditions Keynes. Livre dans lequel il raconte quelques-unes des affaires qu'il a eues à traiter. Voici la deuxième. Dans la première, la victime s'appelait Philippe. Pardon, mais dans celle-ci aussi. Et c'est une histoire dans laquelle la conclusion est hallucinante, unique. Il est 14h, on est en été, il fait beau. Philippe décide d'aller faire une petite promenade avec sa chienne Elsa. Un petit chien noir que Nadine, sa femme, lui a offert pour la Saint-Valentin. Philippe avait envie d'avoir un chien pour lui, parce que sa femme a trois mâles. Ils n'ont Dieu que pour elle. Allez, mon Elsa, hein ? On va promener.
Oui, ma chérie, oui, t'es une jolie chienne.
Allez, hop, on y va. Ce jour-là, Nadine rentre tard. Il est 17h. Philippe ? Je suis là. Pas de Philippe. Et pas d'Elsa non plus. Elle l'appelle sur son portable. Pas de réponse. Mais ça ne l'inquiète pas outre mesure, il ne répond jamais. Alors elle sort son ordinateur et elle cherche à le localiser grâce au traceur qui permet de retrouver un téléphone perdu ou volé. Ouf ! Pas de souci, il est sur le chemin qu'il emprunte à chaque fois. Sauf qu'une demi-heure plus tard, il n'a pas bougé. Et là, pour le coup, Nadine est inquiète. Alors elle attrape ses trois clébards et elle part à sa rencontre. Elle fait 100 mètres. Et là arrive Elsa, seule et sans laisse. Nadine fait quelques pas de plus et elle découvre Philippe à plat ventre en plein milieu du chemin. Philippe, Philippe, tu m'entends ? Philippe ! Et là, elle veut prendre son pouls au niveau de la carotide. Elle plonge sa main vers son cou et elle la ressort couverte de sang. Philippe a une plaie béante au niveau du cou. Et il est mort.
Allô, docteur ? Le
procureur à l'appareil. Dites-moi, j'ai un meurtre sur les bras. Vous pourriez vous rendre sur les lieux, s'il vous plaît ?
Quand j'arrive sur place, le laboratoire de la police technique et scientifique est déjà là.
Bonjour, docteur. Laissez-nous encore quelques minutes et il est à vous.
J'en profite pour explorer les abords du cadavre. Le chemin sur lequel la victime est couchée est en contrebas d'un jardin. Un jardin qui a dû être tondu récemment parce que ça sent l'herbe coupée.
Docteur, à vous de jouer.
La plaie sur la face antérieure du cou est très profonde. Mais à part ça, on ne voit aucune trace de lutte ou de défense. Comme si quelqu'un était arrivé en silence par derrière et lui avait tranché la gorge avec une force très importante avant de s'enfuir. Ce genre de meurtre est en général commis par un homme. Je dis ça parce que Nadine, sa femme, va être inévitablement sur la sellette. L'autopsie commence par un nouvel examen extérieur. Et puis scalpel en main, corps couché sur le ventre, je réalise une incision qui part de la nuque jusqu'à la pointe des fesses et que je poursuis sur les deux jambes jusqu'au talon. Et je fais la même chose sur les épaules. Et après, avec mon scalpel, je décolle la peau pour voir les masses musculaires. Je cherche des lésions profondes qui n'étaient pas visibles à la surface du corps. Et il n'y en a pas. Et après, je recoue tout ça. Ça prend souvent beaucoup plus de temps que l'examen lui-même. Mais par respect pour le défunt et pour ses proches, nous nous devons de restituer le corps tel que nous l'avons reçu. Ensuite, j'ouvre au scalpel la peau du crâne, d'une oreille à l'autre, pour visualiser la boîte crânienne et vérifier si Philippe n'a pas reçu un coup qui aurait produit un hématome profond, voire une fracture de la voûte crânienne. Ça n'est pas le cas. Et après, eh bien, j'ouvre le crâne. Et je découvre le cerveau. Je cherche une hémorragie ou la moindre trace de traumatisme. Et ensuite, j'extrais le cerveau pour visualiser la base du crâne et une éventuelle fracture à cet endroit qui passerait nécessairement, vu sa localisation, inaperçu à l'examen extérieur. Rien de particulier. Alors je passe à la prochaine étape. Avec mon scalpel, je fais une incision qui va du menton jusqu'au pubis et d'une épaule à l'autre, ce qui fait une sorte de croix. Et me voilà face à la cage thoracique et à l'abdomen. L'abdomen, ce que vous appelez le ventre, est facile d'accès puisqu'il n'est recouvert que par des muscles. En revanche, pour accéder au contenu du thorax, il faut retirer le sternum en coupant à la pince les côtes qui s'y amarrent. Voilà. Je retire les poumons, je retire le cœur, je les examine, rien de particulier. J'en profite pour jeter un œil à l'arrière de la colonne vertébrale, et puis je me penche sur le cou. C'est un moment clé, puisqu'a priori, Philippe est mort d'une blessure au cou.
Ondelatte raconte sur Europe 1.
Restez bien avec nous sur Europe 1. Christophe Ondelatte revient dans un court instant.
Europe 1, le journal permanent.
Et pour le moment, c'est le rappel des titres avec vous, Cédric Chasseur.
La Cour de cassation a tranché. François Fillon est définitivement jugé coupable dans une affaire d'emploi fictif, mais elle ordonne un nouveau procès devant une cour d'appel pour redéfinir sa peine. L'ancien Premier ministre avait été condamné précédemment à 4 ans de prison, dont un ferme. Le début, dans quelques instants, des obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans assassiné il y a une semaine à Grande-Synthe. Près de 1500 personnes sont attendues dans le Nord pour lui rendre un dernier hommage. Pas d'amélioration notable demain dans les airs, malgré un accord de sortie de crise entre l'administration et le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens. Le trafic sera fortement perturbé demain, avec notamment 55% des vols annulés à Roissy, 75% à Orly. Invité d'Europe 1 et de CNews ce matin, Fabrice Leggeri se dit victime des ONG immigrationnistes, dit-il. Dans leur dépro, le numéro 3 de la liste RN, ancien patron de Frontex, s'en est pris à deux associations. Elles sont à l'origine de la plainte pour complicité qualité de crime contre l'humanité qui le concerne. Des centaines de palettes de bouteilles d'eau de la marque Perrier détruites par précaution par Nestlé. Le groupe a constaté une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un de ses puits du Gard après de fortes pluies mi-mars. Il indique que toutes les bouteilles sur le marché peuvent être consommées en toute sécurité. Le Paris Saint-Germain peut être champion de France de football dès ce soir. Il faudra pour cela s'imposer à Lorient. Coup d'envoi de ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1 à 19h, puis attendre un mauvais résultat de Monaco opposé à Lille à 21h.
C'était Cédric Chasseur sur Europe 1 et retour de l'info dès 15h, juste avant Stéphane Bern. Pour le moment, à 14h30, vous écoutez Christophe Ondelat, on de la traconte sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, on de la traconte.
Je vous raconte une histoire tirée du livre du médecin légiste belge Philippe Boxo, « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. Livre dans lequel il raconte quelques-unes des affaires qu'il a eu à traiter. Dans cette histoire, on a retrouvé Philippe la gorge tranchée sur un chemin où il se promenait avec son chien. On est en pleine autopsie. Le docteur Boxo se penche sur le cou de la victime. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Regarde. Regarde, le cou est sectionné jusqu'à la vertèbre. Regarde, la pomme d'Adam est carrément coupée en deux. Et c'est pas tout. La veine jugulaire et l'artère carotide droite sont également sectionnées. Bien. Ce monsieur est mort d'une hémorragie massive suite à la section de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Par quel moyen? Une arme tranchante? Pour arriver à tel dégât, le coup a dû être porté avec une force absolument inouïe. Hein. C'est pas sa femme qui a fait ça. Vous allez encore me traiter de sexiste, mais si je dis ça, croyez-moi, c'est le fruit de l'expérience. Oui, il y a des différences très nettes dans la manière de tuer selon que l'auteur est un homme ou une femme. Cela dit, ces différences ne sont que statistiques. Un cas isolé n'est pas une statistique. Mais bon, pour moi, ça n'est pas Nadine, sa femme, qui a pu porter ce coup. Et d'ailleurs, elle sera vite mise hors de cause. Voilà, fin de l'autopsie. Tous les organes sont remis en place et le corps refermé par des points de suture. Et maintenant, place à l'enquête. Le propriétaire du jardin à côté duquel le corps de Philippe a été retrouvé est interrogé. Il s'appelle Manuel. Moi, j'étais en train de tondre ma pelouse quand je l'ai vu passer. J'ai fait un petit signe, quoi, c'est tout. Quelle heure était-il? Vous vous en souvenez? Bah, il était 14h30, je m'en souviens, parce que mon tacteur, il est tombé en panne juste après. En panne de quoi? Bah, c'est la lame. Elle a heurté une grosse pierre et puis elle s'est cassée. Et c'est là que le juge nous demande, le labo et moi, de retourner sur place. Quand nous arrivons, plus rien n'indique qu'un drame s'est déroulé là. Le chemin sur lequel Philippe est mort est bordé des deux côtés par un talus. D'un côté, le talus s'achève par le jardin de Manuel. De l'autre, il s'achève à 2 mètres de haut par le début d'un bois touffu. Impossible qu'une personne s'y soit cachée pour sauter sur Philippe. Les gars du labo sont venus avec un détecteur de métaux. Et donc, ils se mettent à la recherche de l'arme qui aurait éventuellement été laissée par l'auteur. Chou blanc. Et c'est là que, intrigué par notre présence, Manuel, le voisin, sort pour nous saluer. Ah, bonjour, monsieur. Ah, ben, vous tombez bien. Je peux rentrer dans votre jardin pour photographier la scène de crime depuis un point enlevé? Ah, oui. Pas de problème. Et pendant qu'ils prennent les photos, moi, je parle avec Manuel de son tracteur tondeuse qui est tombé en panne. Oh, ben, c'est bien dommage qu'il soit tombé en panne, parce que je venais de le faire la révision. J'ai changé la bougie, rechargé la batterie, j'ai aiguisé les lames. Et il est réparé maintenant? Oui, j'ai pu finir la pelouse. Et c'est sur quoi qu'il a buté? Oh ben, venez voir, je vais vous montrer. Et là, Manuel me montre une grosse pierre fichée dans le sol, qui dépasse d'une dizaine de centimètres. Il faudra qu'un jour je creuse pour la sortir, avant qu'elle casse encore cette fichue lame. Ah bon? La lame s'est cassée? Bah non, maintenant elle est plus cassée, mais j'en ai mis une nouvelle. Bah, il manquait un morceau. Et à ce moment-là, me vient une idée complètement folle. Au point où on en est. Dites-moi, monsieur, vous pensez qu'il a encore la lame cassée, votre réparateur, ou vous l'avez reprise vous-même? Oh non. Ah, c'est lui qui l'a. Et nous voilà partis chez le réparateur qui est à 400 mètres de là. Sur place, je téléphone au juge qui ne comprend pas très bien où je vais en venir et je fais saisir la lame. À l'examen, la lame est pliée et sectionnée, c'est-à-dire que son extrémité est manquante. Dites-moi, monsieur, vous auriez une lame intacte que je puisse mesurer la taille du morceau qui manque ? Je note que le morceau manquant est recourbé à son extrémité, qu'il mesure à peu près 12 cm de long et qu'il est pourvu d'un bord tranchant, surtout s'il est aiguisé. Ce qui est le cas, puisque le tracteur de Manuel sortait de l'entretien. Et donc, nous retournons sur place à la recherche du morceau manquant de la lame du tracteur. Arrivé sur place, je me mets là où Philippe a été retrouvé. Un membre du labo se met à l'endroit de la pierre qui sort du sol. Et un troisième, armé de son détecteur de métaux, se met dans l'axe pour chercher en hauteur, dans le talus, la lame du tracteur. Et il la trouve. La veille donc, au moment où Philippe passait avec son chien, Manuel était en train de tondre sa pelouse. Ils se sont salués. Puis Manuel a été distrait par son tracteur qui venait de buter contre une grosse pierre, ce qui l'a empêché de continuer à tondre. Au même moment, sans que Manuel s'en aperçoive, la lame brisée du tracteur a été éjectée à très grande vitesse au ras de la pelouse, au-delà du chemin creux, et en passant, eh bien, elle a atteint Philippe au cou par son bord tranchant. Elle lui a sectionné le cartilage thyroïde, la veine jugulaire et l'artère carotide droite, causant une hypovolémie massive et rapidement mortelle. C'est l'un des cas les plus dingues que j'ai connus. On était parti pour un homicide pur et dur, et on se retrouve avec un accident peu banal. Voilà pour ces deux histoires tirées des deux livres du docteur Philippe Boxeau que vous trouverez sans problème. Le premier s'appelle « Les morts ont la parole » aux éditions Kens et toujours chez le même éditeur « Entretien avec un cadavre ». À suivre, le débrief de ces deux histoires.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins trois explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, hein ? Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur but.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1.
14h, 15h, on de la traconte.
Je vous ai raconté deux histoires tirées des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxeau, médecin légiste en Belgique. Et c'est avec vous, bien sûr, docteur, que je vais les débriefer. La première histoire est tirée de votre livre « Les morts ont la parole » aux auditions Kens. Et c'est donc l'histoire de cette jeune fille qui pense avoir tué son père et qui ne l'a pas tué puisqu'en fait il était déjà mort au moment où il y a tiré dessus, mort d'une hémorragie provoqué par une rupture d'anévrisme. C'est typiquement le genre d'affaire dans laquelle on aurait pu passer à côté de la vérité.
On aurait pu passer à côté de la vérité si on ne l'avait pas autopsié.
Ceci dit, beaucoup de gens sont choqués par le fait que, alors que cette jeune fille avait une arme qu'elle a correctement tirée, qu'elle voulait tuer son père, et qu'elle était vraiment dans un processus d'assassinat, parce que c'est un assassinat, s'il avait été vivant, ça aurait été un assassinat, qu'elle n'ait rien subi. Donc elle n'ait pas été punie. Mais notre code pénal ne le permet pas. Ne le permet pas, que ce soit en France ou en Belgique, de toute façon on a quasiment le même, il vient de Napoléon, hein, 1811 pour le code pénal. Eh bien, cette idée, c'est que il y a un élément matériel à une infraction. L'élément matériel, c'est qu'il faut que la personne soit vivante pour pouvoir la tuer, sinon on ne peut pas la tuer, elle est déjà morte. Voilà, donc elle n'a pas été punie.
Vous dites ça, et vous le dites bien, parce que, en gros, je me mets à la place de la famille des victimes, les gens disent, est-il nécessaire de démembrer le cadavre de mon fils, de ma fille, qui est déjà mort, de mon père, de ma mère? Vous entendez, évidemment, que c'est légitime, ça.
La demande est légitime. Mais si je mourais, et que... on passe à côté du fait que l'on m'ait tué, post-mortem, imaginons que je puisse encore y réfléchir, je n'en serais pas heureux. Et je crois que d'autopsier est le dernier service que l'on peut rendre à un mort, c'est d'aller vraiment à la recherche de la cause de décès. C'est pour le mort, mais c'est aussi pour la famille. Il faut que la famille le comprenne. Il n'y a rien de pire que d'enterrer un corps sans savoir vraiment de quoi il est mort. Et avec un doute, avec encore une suspicion. N'imaginez pas le nombre de gens qui m'écrivent en me disant je suis sûr que mon conjoint n'est pas mort de suicide, parce que c'est pas possible. Il a jamais voulu se suicider dans sa vie, donc il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas détecté. Et on me refuse l'autopsie. Nous, ce que nous faisons, c'est de permettre à tous ces gens d'avoir tous leurs apaisements quant à la cause de décès.
Oui, mais naturellement, l'être humain est fondé à penser que ce qui est important, c'est que le corps soit intègre. Alors aujourd'hui, bon, avec le fait que on réduise les corps en cendres, la question ne se pose pas de la même manière. Enfin, la grande idée du mort, c'est de le mettre dans son cercueil en entier, de l'enterrer en entier, et de venir le voir, comme pour lui parler.
Alors c'est vrai, mais vous devez savoir que le corps ne va de toute façon pas rester intact. Il va pourrir, c'est ce qu'on appelle la putréfaction. Il va putréfier. Et de toute façon, à partir d'un certain temps, ce corps, il ne sera plus qu'à l'état de squelette. Donc, le respect que l'on doit avoir envers le corps, c'est de le traiter de façon tout à fait correcte. Et quand je l'autopsie, c'est ce que je fais. J'ai jamais rigolé d'un cadavre et j'ai interdit que ça se fasse. Et on le recourt ensuite de façon à le rendre, allez, ad integrum, pour qu'il puisse être visible éventuellement par la famille si elle veut le voir. Mais le respect du corps, ce n'est pas de ne pas y toucher. Le respect du corps, c'est de le traiter avec respect d'une part, et d'autre part, de déterminer sa cause de décès.
Je pense que ce qui choque le plus les gens, en l'occurrence, c'est l'ouverture de la calotte crânienne. C'est-à-dire que d'aller avec cette scie, qui est une scie à plâtre, en fait, qui est une petite molette qu'on fait tourner autour du crâne, décaloter le crâne pour en extraire le cerveau. Tout est dans le crâne, tout est dans le cerveau pour les gens.
C'est vrai.
Extrêmement violent, encaissé.
C'est vrai. Le bruit que vous entendez, que vous avez mis sur le...
C'est le bruit d'une scie à plâtre.
Eh ben, c'est le bruit exact. Hein.
Ouais.
C'est le bruit exact. Et c'est vrai qu'ouvrir la boîte crânienne, c'est toucher vraiment à l'intimité, là. On est sur l'organe qui a fait en sorte que cette personne a pu fonctionner, réfléchir, penser, être, exister, sa philosophie, sa religion, sa façon de penser et d'exister. Tout était là-dedans, il n'y a plus rien. Il est mort. Et ce que l'on sait, ce dont on est certain, notamment avec la cryothérapie, la cryogénie plutôt, le fait de mettre les corps dans des cases froides, congelées pour les ressusciter, entre guillemets, plus tard, ce dont on est certain, c'est que les cerveaux sont grillés.
Ouais.
Et qu'il faudra mettre d'autres cerveaux à la place. Donc ce n'est plus la même personne. Et d'ailleurs, quand on parle de greffe de cerveau, on ne parle plus aujourd'hui de greffe de cerveau, on parle de greffe de corps. C'est donc bien la preuve que c'est le cerveau qui est, comme vous le dites très bien, la source de la personnalité, la source de la personne. C'est vrai que c'est là que c'est le plus, comment dire, touchant. Et quand on fait des autopsies, quand il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à l'autopsie, qui est un stagiaire par exemple, c'est le moment où on ouvre la boîte crânienne qui est le moment le plus dur à subir pour lui, et on a parfois en salle d'autopsie des pertes de connaissance.
Pour l'avoir vu moi-même, voilà. Je dis que c'est le moment le plus difficile, et après c'est le plus intéressant, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait, c'est bien le cerveau.
Tout à fait.
Le cerveau est un bloc extrêmement dense, c'est un seul bloc. Ça part pas dans tous les sens. On le retire de manière intégrale, d'un coup.
Oui. sans le séparer du cervelet d'ailleurs.
Oui.
On va couper en dessous de la jonction entre le cervelet et la moelle épinière, c'est là qu'on coupe. Donc on prend le bloc cerveau-cervelet en une seule pièce. Mmh. Et effectivement, comme vous dites. Et alors quand vous l'avez en main, c'est un organe qui n'est pas lourd, hein, il fait maximum 2 kilos. Et vous constatez sa fragilité, c'est extraordinaire. Il faut pas pousser, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions, parce que le pousser dessus comme quand vous appuyez sur le bouton pour appeler l'ascenseur, vous le traversez de part en part.
Oui.
Donc le cerveau est vraiment une structure hyper hyper fragile.
Alors il y a une deuxième chose que tout le monde a appris, moi le premier, c'est que après la mort, le sang se rétracte dans le corps et donc il quitte la surface du corps pour se concentrer dans les veines. Ça,
tout
je pense
fait.
Que c'est une énorme découverte.
Alors c'est une découverte pour beaucoup de monde, et ce d'autant plus que nous baignons dans une ambiance qui est celle de l'Antiquité, où sévissaient des gens comme Galien, par exemple, Hippocrate, qui étaient tous persuadés que dans la partie gauche du cœur, et celle qui est branchée sur les artères, circulait de l'air. Et ils avaient eu cette observation à partir, justement, d'observations sur des cadavres. Ils n'avaient jamais vu un cœur vivant en train de battre. C'est depuis lors qu'on le sait. Donc ça date depuis très longtemps qu'on sait, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte. Il y a aussi d'autres légendes, par exemple le fait que le sang à l'intérieur du corps en post-mortem sédimente. Ça veut dire que les parties les plus lourdes du sang, les globules rouges et les globules blancs, se trouvent dans les parties basses et le sérum se trouve dans les parties hautes. En fait, à l'intérieur du corps, le sang ne sédimente jamais. Il y a beaucoup de pensées comme ça. Mais voilà, c'est la réalité objective.
Et donc la différence, parce que évidemment la difficulté, c'est de faire la jonction avec cette expression qu'on emploie tout le temps. On a trouvé le cadavre dans une mare de sang. Donc au moment de la mort, le sang sort. À partir de quel moment il se rétracte et ne sort plus?
Il ne sort plus du corps à partir du moment où le cœur ne bat plus. S'il sort encore du corps, c'est qu'il y a un écoulement qui se fait gravitationnel.
Oui.
Ça veut dire que le sang a rempli une cavité, la cavité pleurale par exemple, la cavité du thorax. Le coup de feu ou le coup de couteau a été donné plus bas que le niveau gravité et le sang continue à s'écouler par la plaie. Ça arrive, ça peut arriver. Mais ce que vous voyez dans les films, le sang qui s'écoule doucement alors que le type est mort à l'arrière du corps, ça c'est faux, ça arrive jamais.
Cette histoire était tirée de votre livre aux éditions Kens, Entretien avec un cadavre, Philippe Boxeau. Dans un instant, nous débriefons la deuxième histoire. Promenons-nous au fond des bois.
14h, 15h,
Ondelat raconte sur Europe 1.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar, pays gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Europe 1.
14h, 15h, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté deux histoires tirées des aventures professionnelles du docteur belge Philippe Boxeau, médecin légiste, écrivain à succès, puisque vos livres sont régulièrement placés parmi les meilleures ventes. y compris, j'ai envie de dire, surtout en France. Et je vais débriefer avec vous la deuxième histoire, qui est donc cette histoire que vous avez appelée « Promenons-nous au fond des bois » et qui est tirée de votre livre qui s'appelle « Entretien avec un cadavre » aux éditions Kens. C'est donc l'histoire de cet homme qui meurt mystérieusement en promenant son chien et qui en fait a été tué par un morceau de la lame de la tondeuse à gazon du voisin qui s'est fracturé et qui l'a tué au passage. Là encore, j'avoue que j'ai été très très surpris de voir que vous retournez sur place, alors que le cadavre n'est plus là, et que donc on peut imaginer qu'il n'y a plus de place pour un médecin légiste. Il n'y a même plus, dites-vous, de traces de quoi que ce soit sur ce chemin, et vous y retournez avec des gens du laboratoire de police scientifique.
Ça arrive régulièrement qu'on le fasse. L'œil du médecin légiste n'est pas l'œil du labo. Et dans la mesure où j'ai fait l'autopsie du cadavre, je connais les tailles, je connais le poids, je connais tout le corps de celui que j'ai autopsié forcément. Et donc c'est plus facile pour moi de le remettre en situation que pour le labo qui a pris les photos, qui a été bien au courant de tout ce qui se passait, mais qui n'est pas médecin. Donc je trouve que, et c'est le magistrat qui a eu cette idée-là, ça n'arrive pas tous les jours.
Hein, que, quand même.
Ouais, ah non, non, mais c'était tellement particulier que c'est lui qui a eu l'idée de dire, allez, doc, va avec, va voir. Moi, je comprends rien à cette histoire. Pourquoi ? Parce que le chemin était assez long. Et on imaginait mal un auteur arriver même en courant par derrière sans faire de bruit, en manière telle que la victime ne se retourne pas. On n'imaginait pas non plus qu'il puisse dévaler la pente du petit bois parce qu'elle n'était guère accessible. Et en plus, on n'avait pas de traces non plus là-bas. Donc, il fallait trouver une solution. Et vu notre perplexité à tous dans ce dossier-là, il faut dire aussi que la plaie était un peu particulière. C'est pas une belle plaie de coups de couteau, comme on en voit, vous savez, avec des bords bien nets, etc., comme vous en avez peut-être déjà vu. C'est une plaie qui était plutôt déchirée. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui était passé par là, mais avec une certaine violence, et qui avait explosé toute cette région du cou. Donc, vu la perplexité de tout le monde, le procureur du roi chez nous, de la République chez vous, a préféré m'envoyer avec. Et c'était parti, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis retrouvé.
Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est vous qui discutez avec le voisin,
ouais, ouais.
C'est à vous qu'il montre cette pierre qui dépasse, c'est avec lui que vous parlez de mécanique, et c'est avec lui que vous allez chez le réparateur qui a changé sa lame.
Il n'est pas venu avec nous.
Mais, ah, il n'est pas venu.
Non, mais je suis...
Mais vous y allez.
Ah oui, moi j'y vais. En fait, il y aura un chien avec un chapeau, je parle avec. Ça, il faut savoir. J'adore parler, voilà. Je suis un grand bavard. Donc, je me retrouve face à un bonhomme qui, comme moi, n'a rien à faire d'autre que d'observer ce que le bois est en train de faire. Et j'ai le même robot tondeuse que lui. C'est pas un robot, c'est un tracteur tondeuse. J'ai le même tracteur tondeuse que lui. Exactement le même. Et moi, je suis nul avec mon tracteur tondeuse, il tombe tout le temps en panne. Donc, j'avais un...
Parce une que conversation je m'en, de propriétaire de tondeuse.
Voilà, exactement. Et je papote avec le gars. Et il me dit, et votre tracteur, oui, il tombe souvent en panne. Je lui fais, parce que moi, chaque fois que je tonce, tous les samedis, c'est une catastrophe, je dois appeler mon réparateur. Parce que je suis vraiment nul dans la manière de le gérer. Et il m'explique, non, mais voilà, il a buté contre la pierre, etc. Ben, montrez-moi un peu la pierre. Moi, j'ai eu le même coup, mais ma lame a cassé, mais il n'y a pas eu de projection. Lui, sa lame a cassé, le tracteur était soulevé à cause de la pierre, et la lame est partie dans l'axe de rotation.
Mais en vérité, vous avez déjà une intuition sur le rôle de la tondeuse ?
Non, j'en ai pas. C'est vraiment quand il m'a parlé de ce tracteur que ça fait tilt. Et le labo n'avait pas d'intuition non plus, les gars du labo qui étaient avec moi. Et si je n'avais pas été intrigué par ce tracteur qui est le même que le mien, j'avoue qu'il y a des chances qu'on n'aurait pas trouvé.
Alors sur cette affaire qui en plus est un accident, ouais. Ça on ne le sait pas au début, vous allez une première fois sur place. Vous réalisez une autopsie, ça dure 4-5 heures une autopsie ?
2h30, 3h, ça dépend des lésions. Ici c'est une lésion simple, donc 2h30, 3h.
Vous y retournez, ouais. Sur place. C'est tout près de chez vous ou c'est très loin ?
C'est pas très loin, bon, c'est à vingtaine de kilomètres.
Au total, cette affaire vous prend combien de temps ?
Oh là là, bonne dizaine d'heures, 10 à 12 heures, oui.
Ouais. Combien d'autopsies par semaine alors ?
On en fait 2 seulement chez nous, hein.
Pas plus.
Non. Il n'y a pas une grande... En fait, le problème que nous connaissons à Liège, en Belgique, comme dans d'autres régions du Royaume, c'est qu'on n'aime pas autopsier. Enfin, nous, les médecins-légistes, on aime bien. Mais les magistrats n'aiment guère. Et donc, ils estiment que, comme on en parlait tout à l'heure, que c'est une manière de préserver le corps, de le respecter, que de ne pas autopsier. Moi, je vois les choses autrement, mais c'est toujours un grand sujet de discussion entre nous. Et donc, on autopsie que quand il faut vraiment. Et il arrive que je demande à pouvoir réaliser une autopsie, que le magistrat me dise non, sur le plan policier, je n'ai pas de raison, ou judiciaire, je n'ai pas de raison de l'autoriser.
Alors, vous racontez cette autopsie en détail. C'est une occasion de faire
C'était le but.
De la pédagogie. Donc, vous racontez les incisions devant, derrière, la fracturation du sternum, l'ouverture de la boîte crânienne. Quand on vous lit, c'est une boucherie.
Eh ben, c'est pas le cas. Du tout. C'est pas une boucherie, vous en avez déjà vu, donc oui. Vous connaissez.
Ça gicle pas, c'est ça.
Ah non, non, oui. Ça gicle pas du tout. Et on fait ça proprement. Mais c'est vrai qu'on va observer tous les organes. Il s'agit de ne rien rater.
C'est-à-dire que systématiquement, oui. Vous allez jusqu'à la colonne vertébrale.
Oui.
Par exemple, en ce qui concerne le corps.
Toujours.
Systématiquement.
Oui.
Vous enlevez tout.
Et on remet tout ensuite.
Alors justement, vous remettez tout. Dans quel état c'est ? Est-ce que vous repositionnez tout à sa place ?
Alors, tous les organes doivent être ouverts.
Et on garde un morceau ?
Et on garde, pas de tous. On garde ce qui est utile. Je vais garder un morceau de foie, un morceau de rein et le contenu de l'estomac, parce que ça, je vais l'envoyer en toxicologie. Pourquoi ? Parce que le foie est une centrale d'intoxication, le rein une centrale d'excrétion, et l'estomac, s'il y a eu un poison, et que ce poison violent, j'en aurai encore dans l'estomac. Et ensuite, je remets les organes à leur place.
Vraiment à leur place ?
Oui, oui, oui.
On remet pas tout en vrac ?
Bah non. Non, on a toujours la place qui est là, elle est libre. Autant l'occuper. Hein. En plus, c'est une place qui est conformée pour l'organe en question. Donc
mais c'est vous qui faites ça ou c'est le garçon de laboratoire ?
J'ai pas de garçon d'abo.
D'amphithéâtre.
J'ai pas de garçon d'abo.
D'accord.
Donc c'est moi qui fais ça.
Alors vous dites quelque chose, et on va terminer là-dessus, de très mal pensant. Vous dites qu'il y a une différence majeure entre une femme et un homme qui tue, que ça se voit. Mm-hmm. Expliquez-nous ça.
C'est une différence qui existe dans les articles scientifiques qui ont été publiés à cet égard, des articles de criminologie. Je suis aussi professeur en criminologie à l'Université de Liège et j'ai eu l'occasion de voir cette littérature, qui décrit clairement que les hommes ont, envers surtout envers les femmes d'ailleurs, une attitude qui est beaucoup plus violente que les femmes qui ont une attitude plus douce. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les mécanismes, non pas seulement de meurtre, mais également de suicide. L'homme va plus se pendre, la femme va plus se noyer. Il y a des différences, il y a des différences. Et voilà, on constate que les femmes agissent de manière moins violente. Peut-être parce qu'elles ont moins de force que les hommes. Et donc, d'habitude, hein, pas toujours, mais que par rapport à un homme qu'elles voudraient tuer, leur mari, en l'occurrence c'est plus souvent le cas, elles vont s'y prendre autrement, de façon plus douce, de façon plus discrète. Voilà.
Ce qui vous amène à écrire dans les conclusions de votre rapport, j'émets l'hypothèse que ce crime, compte tenu de sa nature, ait été commis par une femme.
Je ne le mets pas dans le rapport.
Oui, c'est impensable.
Non, oui, c'est totalement impensable.
Vous le dites à l'oreille du procureur du roi.
Je le dis à l'oreille du procureur du roi. Exactement, vous avez raison. N'oublions jamais que ça, c'est une statistique. Et une statistique, c'est sur une population. Chaque individu n'est pas une statistique. Donc chaque cas est différent, il faut le réfléchir de manière différente.
Merci beaucoup.
Merci Philippe de m'avoir invité.
Boxo, de m'avoir autorisé à adapter ces histoires tirées de deux de vos livres qui s'appellent Les morts ont la parole aux éditions Kens et Entretien avec un cadavre chez le même éditeur. On en a fini avec la barbaque. Je vous retrouve demain à 14h sur Europe 1, 6h du matin en podcast. À demain. Allez, salut!
C'était Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe Ondelat qui revient donc demain sur Europe 1 de 14h à 15h. Excellent après-midi avant de retrouver Stéphane Bern de 15h à 16h. C'est historiquement vôtre. Je vous propose d'écouter un peu de musique et ce titre iconique de James Brown. Voici It's a Man's, Man's, Man's World sur Europe 1.
Ouais.
Yeah.